Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Babubi Bobu.
Salut Alex.
Oh, qu'est-ce que tu fais là?
Je m'échauffe parce qu'apparemment on reçoit un pont des médias.
Ah bon?
Mais bon, ouais. Charline ne doit pas me dire qui c'est.
Non, c'est Vincent Bolloré, je suis sûr.
T'es dingue ou quoi?
Bah, c'est Guy Lagache. Je me recoiffe.
Non, non plus.
Mais Michel Drucker.
Mais Drucker à côté, c'est un petit joueur.
Ah bon?
Allez, je vous le dis.
C'est qui?
C'est Laurent Ruquier.
Oh, c'est mon héros. Il vient chez nous, mais le gars est tellement fort. Il vient à la concurrence pendant sa propre émission.
Ça, c'est balèze. C'est comme si pour PSG Le Havre, il y a Neymar, il joue avec les Havrais.
Ouais, mais attendez. J'ai un plan.
Un plan? Un plan?
On va organiser son kidnapping.
Oh putain, ça, génial bon, ça, on mettra des bandanas, des treillis, de la peinture de guerre.
Dire ceci est une prise d'otage, je vous demande de rester calme. Voici nos revendications.
C'est quoi nos revendications?
Attends,
c'est quoi les revendications?
Nous revendiquons la fin de l'impérialisme médiatique de monsieur Ruquier. Système Ruquier, c'est quoi? Ce sont pas moins de 3 émissions sur le service public et une émission de radio privée.
Et une pièce de théâtre dans son théâtre.
Et une pièce de théâtre dans son théâtre. Alors aussi, nous revendiquons.
Oh, nous revendiquons. Qu'est-ce qu'on revendique?
Qu'est-ce que... Non, mais l'idée, c'est de le faire exfiltrer des grosses têtes, tu vois, puis hop.
On récupère la présentation des grosses têtes.
Non, c'est pas ça le plan, mais non.
Non, le plan, c'est que nous, on récupère les auditeurs des grosses
têtes. Voilà, mais attends, mais ils vont comprendre?
Bah attends, t'inquiète, il y a mes brèves.
Ah ouais, c'est vrai.
Ça va, tes chroniques, Guillaume, c'est pas réservé à une élite.
Non, ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis on citera 3-4 fois par heure Sacha Guitry, puis les gens, ils verront que du feu.
Bonne réponse de Stevie Boulet.
Ta-ta-ta-ta-ta. Bonjour la France Inter. Vous écoutez la start-up de la radio publique et voici les trois informations qui seront traitées par le truchement de l'humour subventionné. Avec le temps qu'on passe à commenter les petites phrases de Macron, on aurait eu le temps de relire tout Balzac. Mais est-ce que ce serait pas ça le but, de nous empêcher de lire? Pourquoi le président choisit-il un vocabulaire provocateur? Mais est-ce qu'il parlerait comme ça à Brigitte?
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes.
Comment amener les jeunes vers l'art et la culture quand les parents n'ont pas de thunes pour payer des cours de dessin ou une guitare? Eh bien désormais l'école va s'en charger. Il en pense quoi de tout ça d'ailleurs le président?
Votre ignorance est tout à fait attendrissante.
Ah, c'est pas calmé. L'homme n'est pas programmé pour converser à plusieurs. Dès qu'on est plus de 4 au resto, par exemple, le dialogue n'est plus fluide. Les scientifiques s'intéressent à nos interactions autour des grandes tablées. J'ajouterais que parfois, même à 2, c'est pas très fluide.
Laissez-moi répondre.
Écoutez.
Moi, c'est insupportable. Vous ne laissez jamais finir. Alors, j'aimerais bien pouvoir répondre.
Eric et Natacha, merci. Nouvelle série. Alors, lui, il s'y connaît en fluidité.
C'est vrai.
Et il se sert de la blague pour lubrifier l'actualité. C'est Alex Vizorek.
C'est bien dit, c'est brillant. Belle image. Bonjour Charline Wagnacker. Eh bien, j'ai une belle équipe aujourd'hui, évidemment. À 17h20, celle que Charline appelle ma sœur. Et si c'est le cas, le père commun va devoir trouver une toute bonne explication. C'est Rukia Tawedraogo, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
De confession. Aujourd'hui, je vais tout vous avouer.
Enfin.
Oula.
17h30, celui qui n'a jamais participé à On ne demande qu'à en rire, car il aurait très mal vécu que Jean-Benguigui lui mette une bonne note. C'est Guillaume Meurice.
C'est vrai, tout est vrai. Moi, je vais vous faire un petit sujet apaisement. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Je vais vous parler d'Éric Zemmour. Voilà, j'ai rencontré des gens qui l'adorent et ça s'entend. Hein.
Les filles voilées, on dirait des chouettes.
Voilà. Des chouettes, elles confondent avec Batman, à mon avis.
Et à 17h40, celle qui a élevé le topless au rang d'yard d'art dialectique. C'est Constance, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
On va pas parler de Lolo, on va parler de l'eau.
Oh, il y a jeu de mots.
Oh, c'est exceptionnel. Vous allez voir, la chronique est à la hauteur.
Ne faites pas fuir notre invité, car voici celui qui va enjailler notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Laurent Ruquier.
Oh là là, 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 là.
France Inter, Charline Wagnacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Laurent Ruquier.
Merci.
Et bienvenue sur cette antenne qui fut la vôtre il y a 19 ans, rien à cirer déjà.
Eh oui.
Ah, dites donc.
Eh oui, je n'ai pas vu ces années passer. Et ça a bien changé ici d'ailleurs.
Laurent Ruquier avec...
Les charmantes hôtesses en bas et tout, il n'y avait pas ça avant. Non, vraiment?
Ah, ça, c'est Guy Lagache qui a tout. Il a fait un casting.
Ah oui, les filles reviennent.
Elles ne sont pas payées, elles viennent pour Guy Lagache.
Laurent Ruquier aujourd'hui.
Pourtant, c'est lui que j'ai vu sur le trottoir.
On l'a croisé.
Vous l'avez.
On vous reçoit aujourd'hui pour une pièce de théâtre, Pourvu qu'il soit heureux, une comédie de votre plume, Laurent Ruquier, avec Francis Huster, Fanny Cotenson et le jeune Louis Le Barazère. On dit
Le Balazère.
Ah,
le Barazère. Oui,
le Barazère.
C'est moi qui me trompe. Il faut dire qu'il débute. Hein.
C'est vrai. Qui se joue au Théâtre Antoine actuellement, du mardi au samedi à 21h, et puis le samedi et dimanche à 16h. Il s'agit de Maxime et Claudine, qui sont en vacances, tranquillou, sont dans leur chambre d'hôtel. Maxime achète la presse, il lit compulsivement la presse. Il la lise et puis il tombe sur un magazine People qui out leur fils en couverture. Il découvre qu'il est homosexuel et en couple avec un acteur célèbre qui a 30 ans de plus. La pièce commence avec comment réagissent les deux parents. Et Laurent Ruquier, dans le texte, vous répondez doublement à cette question. Vous jouez un premier acte, puis le rejouez de façon différente. Il y en a un qui est plus tolérant de l'autre que l'autre, et dans le deuxième acte, c'est le contraire. Pourquoi avoir choisi de raconter cela doublement? Il n'y avait pas qu'une seule voie possible.
Parce que c'est en fait, c'est comme ça moi que j'ai imaginé et que j'ai écrit la pièce, c'est ce qui se passe dans la tête du jeune homme. En fait, voilà, quand on décide de parler à ses parents, ou alors quand on a été outé, mais généralement ça se passe pas comme ça, c'est plutôt le coming out, on se dit mais comment ils vont réagir ? Et on imagine les différentes hypothèses des réactions du père et de la mère. Et parfois on se trompe, c'est pas forcément comme on a prévu. Et là voilà, je voulais montrer deux hypothèses possibles, il y en avait d'autres d'ailleurs, parce que c'est pas tout à fait symétrique les deux actes, si la mère est moins tolérante dans le deuxième, c'est pas d'ailleurs qu'elle soit pas tolérante dans le deuxième acte, c'est qu'elle culpabilise. Mm-hmm. Elle n'a pas les mêmes, on va dire, accents homophobes que peut avoir le père dans la première partie. Donc c'est pas on va dire deux actes symétriques, mais c'est en tout cas deux hypothèses possibles qu'imagine le garçon jusqu'à ce qu'on passe à la réalité dans le troisième acte.
Et que les parents aillent le voir chez lui. Alors ce premier acte en deux parties, on peut dire, ou ces deux premiers actes sont vraiment sur le ton de la comédie, parce que eux le vivent d'une façon, l'un ou l'autre, de façon dramatique, l'autre beaucoup moins, donc il y a une tension qui fait qu'on est dans la comédie. Et la deuxième partie est un peu plus tragique. Moi, j'ai senti un peu comme un auteur un peu en colère sur peut-être l'air du temps, la société, le côté peut-être parfois un peu réactionnaire. On sent un peu de colère dans
quand
le
on écrit sur ce thème, ouais. On a envie évidemment de dire ce qu'on pense et puis essayer de faire réfléchir le spectateur. Moi, j'aime bien faire rire évidemment le public, ça va de soi, mais j'aime aussi qu'on sorte de la pièce en ayant retenu quelque chose, pas forcément des leçons, mais en tout cas de quoi discuter et pouvoir réfléchir ensemble. Donc si la pièce peut évidemment faire un pas à quelques personnes dans le public vers la tolérance, tant mieux, et oui, c'est le but. Donc évidemment, je me suis servi beaucoup de ce que j'ai pu vivre moi, ou des gens dans mon entourage, et oui, j'avais envie de temps en temps de démonter les clichés. Je me sers beaucoup des clichés, mais pas pour faire rire, je m'en sers pour les démonter, évidemment. Mmh.
Moi, j'avais vu La Gauche, La Droite avec Las Palès et Francis Huster, et vous prouviez qu'on pouvait être ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, parce que c'était votre côté observateur de la vie politique. Ici, c'est peut-être une situation que vous avez connue de plus près. Comment vous pouvez arriver à en ressortir et à essayer justement de...
Parce que pareil, au fond, tout n'est pas si simple. Voilà, dans la vie, on est plein de paradoxes. Mmh. Moi, je suis homosexuel, tout le monde le sait, ceux qui ne savent pas, je leur dis, fais mon communiqué sur France Inter cet après-midi. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je suis homo que j'ai le sentiment d'appartenir à une communauté, mais en même temps on m'y renvoie assez souvent, et donc à la fois j'ai envie de défendre la tolérance vis-à-vis des homosexuels, mais j'ai envie aussi, c'est aussi ça la pièce, de me mettre à la place des parents pour qui c'est pas toujours facile d'apprendre ce genre de choses, même si ça devrait pas être le cas, c'est le cas, c'est un constat, c'est pas simple encore aujourd'hui en 2018 en France, mais encore pire peut-être ailleurs. Donc c'est pas si simple que ça. Voilà ce que j'ai voulu. Donc j'ai essayé de me mettre dans les deux camps, non pas à droite à gauche, mais aussi bien chez les parents que chez le fils.
Et un mot sur le choix des comédiens, donc Francis Huster, Fanny Cotenson et le jeune comédien Louis Le Barazère. Vous avez écrit en sachant qui jouerait. Ce sont un peu vos comédiens fétiches. Comment ça se passe?
Non, franchement, là, quand j'ai écrit cette pièce, je savais pas vraiment qui allait encore la jouer. Mais Francis Huster est devenu effectivement quasiment un habitué de la maison, puisqu'il a joué ma pièce précédente, et puis celle-ci, il l'a lue, il l'a aimée. On a choisi Fanny Quetençon dans un deuxième temps. Et quant au jeune garçon, ça a été plus compliqué, parce que il fallait prendre quelqu'un qui soit vraiment jeune. Il a 23 ans dans la pièce. D'ailleurs, il a
l'âge de son personnage.
Il a l'âge du rôle, exactement. Et là, on a auditionné beaucoup de jeunes acteurs. Il n'y en a aucun vraiment qui correspondait. Et puis, c'est Stéphanie Bataille, la directrice déléguée du Théâtre Antoine, qui nous a dit, mais il y a quelqu'un qui vend les programmes dans la salle, et il est dans une école de théâtre, vous devriez l'essayer. Donc, on l'a fait monter sur scène, et finalement, c'est lui qui a gagné.
En traversant la scène, il a trouvé du travail, c'est formidable.
Ah oui, c'est une belle histoire.
C'est la pièce de Laurent Ruquier, Pourvu qu'il soit heureux, mise en scène Steve Suissa, et c'est au Théâtre Antoine. Par Jupiter, vous êtes sur France Inter. Mais oui, c'est Laurent Ruquier qui est avec nous jusqu'à 18h. Il y a aussi Constance, Rukiata et bien sûr Alex et Guillaume. Pas moyen de s'en débarrasser. Les Clash qui se produiront bientôt au Duty Free d'Orly, donc, avec I Fought the Law. Vous êtes sur France Inter. Laurent Ruquier est notre invité pour une pièce de théâtre, Pourvu qu'il soit heureux, qui est jouée au Théâtre Antoine à Paris. Et pour entourer Laurent Ruquier, Alex.
Eh bien, Rukiata Ouédraogo, Constance et Guillaume Meurice qui nous parlera d'Éric Zemmour.
Bien sûr. On parle pas assez d'Éric Zemmour, je trouve, en ce moment.
On comptait sur vous, justement.
Et nous, on a écouté Rien à cirer, etc. On a pris des petites notes et on va essayer de faire un journal un peu rigolo.
Au-dessus des querelles politiques, il existe un arbitre national.
Le journal de presque 17h17.
Au chat, l'arbitre !
Et on commence par les titres.
Gérard Collomb est candidat à la mairie de Lyon en 2020.
Oui, Abdelaziz Bouteflika soutient cette candidature.
Hasard, coïncidence, le même jour, Emmanuel Macron dévoile son plan santé.
Oui, plan santé qui consiste à être très prudent en traversant la rue.
Y aura-t-il des brèves ?
Évidemment, je suis candidat à faire des brèves tant que Gérard Collomb reste en politique.
Oh putain.
Oui, c'est
vrai.
Ça peut être très
putain, long. Deux ans. Et on commence avec notre ministre de l'Intérieur, Gégé, qui a annoncé qu'il sera candidat à Lyon.
Et dans son cas, clairement, on ne parle pas de locataire. maire de la mairie de Lyon, mais d'un viager plutôt.
Et cette décision fut une sacrée surprise.
Évidemment, même les Lyonnais, ils s'étaient fait à l'idée que la prochaine fois qu'ils mettraient Colomb dans une urne, ce serait pas les élections.
Non, mais ça va. Non, ça va. Je rappelle qu'on n'est pas français, Alex, nous deux, puis qu'il est toujours ministre de l'Intérieur.
Ça, c'est assez prudent de votre part. On passe à Emmanuel Macron.
Oui, il a fait un discours pour présenter sa réforme de la santé.
Et si la réforme de la santé est comme la réforme du Code du travail, il va falloir s'attendre à un retour des saignées, des sangsues et des cataplasmes aux fenouilles.
Agnès Buzyn a justement déclaré « On dépense beaucoup pour la santé, mais l'argent est parfois un peu gaspillé. »
Eh oui, mais au niveau gaspillage, alors ça se situe entre 26 000 euros de frais de maquillage et 150 000 euros de frais de déplacement pour Édouard Philippe.
Dans ce plan, Agnès Buzyn l'a précisé ce matin face à Jean-Jacques Bourdin, les patients pourront donner une note aux hôpitaux et cette note sera rendue publique.
Eh oui, bon, la bonne nouvelle, c'est que les morts ne peuvent pas donner leur avis, donc bon, il n'y aura pas de zéro.
Évidemment.
Mais, et c'est grand parce qu'il y en a un qui a une longue expérience, mais qui ne pourra pas donner son avis non plus, c'est Vincent Lambert. Hein, on aurait bien aimé avoir une
autre
note.
Annonce, Emmanuel Macron exclut formellement de modifier les droits de succession.
Et ça, c'est bien. On n'est pas à l'abri de voir Laetitia Hallyday se remarier prochainement.
Passons aux révélations dans l'émission de Yann Barthès Quotidien.
Et oui, qui dévoile la fameuse phrase qu'Éric Zemmour aurait adressée à Psatoussi, qui a été coupée au montage des Terriens du Dimanche.
Vous n'êtes pas une enfant de la République, votre prénom est une insulte à la France.
Et oui, si Absatou est une insulte à la France, les prénoms des champions du monde, N'Golo, Adil, Djibril, Ousmane, Nabil et Kylian, c'est carrément Gilles de la Tourette.
Éric Zemmour aimerait qu'Absatoussi se prénomme Corinne.
Et, oui. Et nous, on aimerait tous qu'Éric Zemmour se prénomme Boubacar. Ça lui ferait du bien une semaine ou deux.
International, Israël, des archéologues découvrent une brasserie datant de la préhistoire.
Et je veux pas foutre la merde, mais la Terre promise, elle serait pas belge du coup, parce que si on y trompe des brasseries.
Allez, retour en France.
Oui, la RATP ouvre une procédure disciplinaire contre un chauffeur de bus.
Oui, ce chauffeur a giflé un collégien qui l'aurait insulté. L'adolescent a traversé la rue devant son bus, l'obligeant à effectuer un freinage d'urgence.
Écoutez, pour une fois que la jeunesse prend les devants pour trouver un emploi, voilà qu'on les félicite pas, paf, une tarte dans la gueule.
Allez, voilà. On attendait les brèves.
Les brèves. Ah. À Paris, une femme a été découverte morte dans une bibliothèque. Vu les circonstances, on est assez sûr qu'il ne s'agit pas de Nadine Morano.
Et la dernière, ça je sais qu'elle vous touche de près.
Ça m'a ému. Ouais. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Je suis scandalisé à Alès.
Dans
le Gard. Plus de place au concert de Michel Thor. Les seniors manifestent. Et ça me rassure, je ne suis pas le seul quand même à être capable d'aller faire la file pour un concert de Michel Thor.
Oui, mais vous êtes le seul de moins de 70 ans, Alex.
Oui, ça c'est... Voilà, c'est pas à exclure.
On parle théâtre aujourd'hui et justement, je peux me permettre, Alex Vizorek, ce soir. Et oui, on peut vous voir dans 3 hommes et un coup fin.
Sur France 2.
Sur France 2, en direct à 21h avec Ben et Bruno Sanchez. Et adaptation de son propre film, Colline Serrault.
C'est elle qui met en scène. Voilà. Donc voilà. Si vous aimez le film, vous aimerez la pièce, j'espère.
Et le théâtre, vous pouvez y aller. Alors demain, vous viserez que ce soir et demain, vous allez au théâtre voir Pourvu qu'il soit heureux. C'est la pièce écrite par notre invité Laurent Ruquier avec Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis Le Barazère. Et on va profiter de votre présence, Laurent Ruquier, pour traiter de ce premier sujet. Vous savez qu'on change le monde dans cette émission. Premier
mais
sujet.
Mais il n'écoute pas parce qu'il est en même temps. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était vraiment...
Le gars est corporate, c'est toujours la même émission.
Feignant, pognon, costard, foutre le bordel et t'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot.
Macron.
Oui, il clash les Français, Macron. Mais pas tous les Français, attention. Il clash que les Gaulois réfractaires en t-shirt essentiellement. C'est ce qu'on appelle le parler vrai. Et d'ailleurs, il a remis ça ce matin. Écoutez.
Mais j'en ai rien à foutre des chômeurs, moi. vous me dégoûtez tous. Les postiers, les informaticiens, les professeurs, les coiffeurs, les péagistes, les secrétaires, les fleuristes, les garagistes. Les vétérinaires, les esthéticiennes, les électriciens, les éboueurs, les plombiers, les dentistes, les barmans, les jardiniers, les cuisiniers, hein, les agriculteurs, les intermittents, les médecins, les chauffeurs de bus, les journalistes, les architectes, les gardiens de phare, les femmes au foyer, les maraîchers, les notaires, les tuches.
Vous préférez la langue de bois, peut-être? C'est un extrait des Tuches 3, car nous avons des références culturelles sur cette antenne. Laurent Ruquier, il y a notamment une page débat dans La Croix aujourd'hui. Je suis sûr que ça vous a pas échappé, vous qui lisez toute la presse.
Évidemment.
Hein, évidemment. Pourquoi Emmanuel Macron multiplie-t-il les petites phrases? Et on se demandait, vous qui lisez beaucoup la presse et qui adorez aussi la caricature, le dessin de presse, on se demandait, est-ce que Macron, dans ces moments-là, il ne se caricature pas lui-même?
Non, moi je crois qu'au fond, il est plutôt sincère. Vraiment, je pense qu'ils disent ce qu'ils pensent. Je pense pas, quand on dit que c'est calculé, que ça a été réfléchi, la petite phrase à l'avance, quand il répond, par exemple, il faut traverser la rue, et je pense pas qu'il est le gamin, enfin, c'est un gamin, je crois, je pense pas qu'il ait été. Voilà, oui, il a 25 ans. Oui, c'est un gamin, 25 ans. Pour le vieux, j'étais ici il y a 20 ans, monsieur. J'ai changé de rue pour trouver un travail. Non, mais quand quelqu'un, un jeune, on va dire un jeune, quand un jeune lui l'interpelle à propos de voilà son manque de travail, il peut pas savoir. Et voilà, il lui, c'est pas préparé. Ou alors vraiment, je peux pas croire que l'Élysée prépare, enfin, entraîne des figurants qui vont interpeller le président. Et voilà, non.
Mais je pense qu'il dit Gaulois réfractaire, c'est dans un discours.
Alors là, en revanche, c'est là, je pense que c'est préparé.
Cynique, feignant, extrême.
Non, mais c'est des choses qu'il a. Voilà, mais c'est quand même des choses qu'il pense.
Ah bah, c'est sûr.
Voilà. Donc, mais en même temps, s'il les dit, c'est parce qu'il sait aussi que ça plaît à une partie des Français. Parce qu'il y a une partie des Français qui pensent comme lui, que si on traverse la rue, on trouve du travail. Et d'ailleurs, c'est pas totalement faux, mais on trouve pas forcément le travail qu'on a envie de faire. Oui, et ça, c'est ça. Le problème.
C'était ça. Nicolas Sarkozy disait « Du parler vrai naîtra la confiance ».
Ah oui, alors lui, oui,
c'est loupé.
Vous vouliez poser une question?
Non, mais justement, le fait que vous ayez raison, moi je pense comme vous, c'est-à-dire qu'il n'avait pas préparé, mais c'est peut-être ça le pire, c'est qu'il le pense comme ça, une espèce d'arrogance instinctive qu'on n'avait pas trop vue dans la campagne, qui s'était bien gardé de nous montrer.
Ah bah parce qu'en campagne, on prépare ce qu'on dit.
C'est vrai. Mais est-ce que les journalistes ne devraient pas laisser ce volet-là aux satiristes, aux humoristes? Parce qu'on en parle énormément, et finalement, ça peut éventuellement prendre du temps disponible de journal plutôt que de parler de sujets de fond. Est-ce que ça devrait plutôt être la cam des dessinateurs, des humoristes, etc.
Alors, mais si on commençait à enlever ce qui fait le buzz dans les journaux et, ou sur les réseaux sociaux, ce serait un boulot énorme pour les vrais journalistes, parce qu'il faudrait remplir tous les journaux. Non, c'est pas possible. Évidemment, ça amuse, ce genre de petites phrases. Ça a toujours été. Ouais. C'est pas nouveau non plus. On se souvient, même De Gaulle a eu ces petites phrases. Donc, les Français sont dévots et tout ça, ça a toujours existé. Aujourd'hui, c'est simplement que tout prend des proportions bien plus grandes à cause, justement, du buzz, des réseaux. Bah, voilà. Une phrase comme ça, c'est je sais pas combien de clics pour chaque organe de presse qui ne vend plus de papier, mais qui, en revanche, cherche à attirer des followers.
Et ça permet de se faire entendre, c'est l'objet du débat dans La Croix, de dire la parole politique, s'il n'y a pas des saillies.
Oui, alors La Croix, je ne suis pas sûr qu'il va y faire le buzz. Mais...
Et si c'est le cas, ce n'est pas une grande réussite.
Il n'y a pas eu de scoop sur Jésus depuis très très longtemps. Quoi.
Laurent Ruquier est en notre compagnie. Et dans ce studio, il y a aussi celle pour qui...
Qui n'a pas vraiment un prénom très compatible avec la République.
Entre Charline, vous croyez que c'est compatible avec la République?
Est-ce qu'il y a une sainte? Est-ce qu'il y a une sainte?
Il y a bien une sainte Charline.
Charline, parce je pense que c'est un alliage de... Ça vient de Charles, quand même, et de Carolus. Il y a un mélange de latin et de germanique.
On va vérifier quand même.
Je pense que Zemmour commencerait par Rukyatar, en matière de prénom problématique.
Allez, celle qui a un prénom provocateur, on vous laisse le micro.
Allez, vas-y, Corinne.
Elle est bravo. Alors, bonjour, bienvenue sur Radio Gabon. Ici Rukyata Ouédraogo, la voix officielle de l'Afrique de par Jupiter. Eh oui, mes amis, vous ne le saviez pas, mais je travaille en sous-main pour la radio Gabon qui m'a chargée d'infiltrer France Inter. Je suis obligée de vous l'avouer aujourd'hui car un auditeur particulièrement malin m'a démasqué suite à ma dernière chronique sur le retour du refoulé colonial. Oui, c'est vrai, je l'avoue. Je suis chargée de diffuser sur les zones françaises l'esprit insidieux de l'Afrique. Selon cet auditeur, il est plus que temps que France Inter arrête ces conneries et que j'abandonne cet accent qui, certainement, pervertit les oreilles françaises. Ça me fait marrer, ma sœur. Bon, puisque je suis démasquée, je vais arrêter de vous parler de l'Afrique et je vais vous parler de la France avec cette tonalité gauloise si douce aux oreilles de nos compatriotes. Pardonnez-moi un instant, je prends ma pilule d'accent français.
Il y a un suspense. Ouais.
Alors. Donc, parlons de la France, la vraie.
C'est pas mal.
Alors, l'autre jour, alors que je prenais mon petit déjeuner dans un hôtel à Laval, je regardais les informations sur les meilleures chaînes françaises BFM TV. Je revis la tête de Fillon pour la première fois depuis longtemps. Et je dois vous dire que ça m'a fait très plaisir. Il portait un magnifique costume qui devait valoir au moins 13 000 euros. Super beau, bien coupé. Juste un petit conseil à Monsieur Fillon pour le style. Quitte à mettre un pognon de dingue dans un costume.
Attention, ça revient.
Ouais, attention, c'est cher. Sur dingue, il y a eu ça arrive.
C'est vrai. Bon.
C'était un générique, la pilule.
Autant qu'il y ait de couleurs, de strass, de brillants, de paillettes. Enfin, si tu portes un costard à 13 000 euros, il faut que ça se voit, non? Mais, à la décharge de François Fillon, il paraît que ce n'est pas lui qui a choisi le costume. Non. C'est un célèbre entremetteur et avocat français, spécialiste des questions france-africaines, qui lui a offert. Ah oui, excusez-moi, je vous avais promis de ne pas parler d'Afrique. Bon, parlons de la France authentique. Sur BFM, on voyait aussi Marine Le Pen affirmer qu'elle n'avait pas honte d'aller faire la manche auprès de ses sympathisants, car il n'y a pas de honte à être pauvre. Je suis personnellement de tout cœur avec Marine Le Pen. D'ailleurs, moi-même, quand je traverse la rue pour aller faire la manche devant Pôle emploi, je n'ai pas honte. Et d'ailleurs, un signe de ma solidarité avec le Rassemblement National, je souhaite lui indiquer une solution possible à son problème de trésorerie. Il me semble qu'il y a quelques années, le célèbre entremetteur et avocat français avait signalé au journal Le Monde que le Front National avait reçu de la part de feu Monsieur Omar Bongo, le regretté président du Gabon, quelques menus monnaies pour financer sa campagne présidentielle de 1988. Je propose donc de demander à mon amie Christine Gonzalez, la femme qui murmure aux oreilles des morts, si elle peut rétablir le contact avec Monsieur Omar Bongo afin de nous éclaircir un peu sur la chose. Et peut-être que de l'au-delà et par-dessous la table, il est encore capable d'apporter son soutien à ses vieux amis politiques. Vous avez remarqué, même quand on ne veut pas parler de l'Afrique et qu'on se cantonne à la vie politique française, l'Afrique revient toujours dans la discussion. Oh pardon, mon accent africain revient.
Oui, oui.
Oh là là, il va falloir que je revoie ma formule de la pilule pour l'accent français. Bon bah, ça ne tient même pas une chronique quoi. Bon, alors, c'était Rukyata Ouedraogo pour Radio Gabon via France Inter. Merci, au revoir.
Merci, merci Rukyata.
Et vous serez le 5 octobre à La Tronche, hein, pour que les gens ne la fassent plus.
Oh là là, vous devriez bosser dans la com.
Mais comme ça, ça reste dans la tête
ça
des gens.
Ça m'a donné envie d'acheter direct 4 tickets.
Laurent Ruquier est avec nous.
Avec nous jusqu'à 18h. À venir Constance et oulala Guillaume Meurice. Accrochez-vous, Laurent Ruquier, tout de suite.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps, même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les yeux vivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de de loin à côté, nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés.
Sec chante « Nous sommes » sur la playlist France Inter, programmation musicale Djoubaka. C'est Laurent Ruquier, notre invité. Il vient nous voir pour une pièce de théâtre qui se joue au Théâtre Antoine actuellement, du mardi au samedi à 21h et puis le samedi et dimanche à 16h. Elle s'appelle « Pourvu qu'il soit heureux » avec Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis Le Barazère. Et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice.
Oui.
Eh bien, on vous souhaite bonne chance, Laurent Ruquier.
Non, moi je suis content, attention. Moi, je suis très ravi de recevoir Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, le découvreur de talent. Hein, je rappelle Michel Gregorio, Gaspard Proust, mais également mon humoriste préféré, Éric Zemmour, la madone de la droite conservatrice, hein, subtil mélange entre un Teletubbies et Robert Brasillac. Je l'aime d'amour, Rico, El Marico, comme on l'appelle. Et c'est vraiment chouette, Laurent, que vous lui ayez donné la possibilité de s'épanouir médiatiquement, parce qu'on avait besoin de rassembler dans ce pays.
Laurent qui a levé les yeux aussi.
Oui, mais
je répondrai après.
Ouais, ouais, bien sûr, on avait besoin de ça. C'est vrai que le péténisme, on dira ce qu'on veut, mais c'est fédérateur. Voilà, on a tous fait des soirées où on dénonçait des gens pour le plaisir de la tradition française. On invoquait le grand-père d'Alex Vizorek, il ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'il a un impact sur la société, Eric, il libère la parole. C'est ça qui est important, moi je l'ai constaté encore ce matin dans les rues de Paris. On commence avec une pure disciple de l'école zémourienne, elle est contre quoi ?
Contre toutes les féministes et tout ça, vraiment, il faut vous regarder les filles dans la rue, elles ont la jupe au ras des trucs, enfin, elles sont complètement dénudées, donc s'il leur arrive des problèmes, c'est de leur faute.
Mais est-ce que le problème des hommes qui agressent les femmes, c'est pas les hommes plutôt que les femmes ?
Les hommes, un peu aussi, mais les femmes... provoque beaucoup.
Et oui, là, voilà, c'est sûr, hein, les agressions de femmes, c'est de la faute des femmes. Alors là, on est sur du Zemmour maîtrisé, lu, écrit, parlé. Hein, 20 sur 20. Spécialité peut-être Elisabeth Lévy, qu'on salue peut-être pour l'ensemble de son œuvre. Hein, on ne perd jamais une occasion de faire un bisou à Babette, même quand elle ne veut pas. Hein, quand elle dit non, c'est oui. Tiens, il y en a un petit peu plus de la dame, je vous le mets quand même.
Là, je suis allée encore dernièrement à Courson. Il y avait une dame qui se promenait, qui faisait du jogging toute seule à travers bois. Bah écoutez, s'il y arrive des problèmes... Voilà,
tout simplement, hein, parce que les meufs qui provoquent en faisant du jogging dans les bois, on les connaît, hein, avec leurs petits leggings de pute, là, pour exciter les cerfs et les chevreuils, ça va 5 minutes. Comment tu veux qu'en tant que mec, on n'aille pas se planquer derrière un buisson pour les violer, c'est humain. Bon, alors ça c'est l'aspect Éric Zemmour et le féminisme, alors Haute-Marotte évidemment, l'immigration, qu'est-ce que ce lecteur de Zemmour pense des immigrés ?
Il y en a trop,
ouais.
Entre autres.
Mais par rapport à quoi ?
Par rapport à la population française, commence à avoir un peu trop d'immigration, c'est tout.
Des Italiens ou des...
Ah non,
des...
Non.
Ah non.
Je parle bien des gens qui viennent de l'Afrique.
Ouais, c'est l'Afrique, ouais, parce que j'ai encore les mauvais réflexes. C'est vrai qu'il y a la bonne et la mauvaise immigration. Donc Charline et Alex, bon, bah, bonne immigration.
Il me semble.
Rukyata, je suis désolé, ça tombe encore sur votre gueule. Mais bon, tout le monde sait que vous venez jusque dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes, et ça va 5 minutes. Rukyata, qui, je le rappelle, veut dire en burkinabé cheveux en tortellini. C'est quand même n'importe quoi. C'est de la provocation. On veut des prénoms français, et ses admirateurs, Zemmour, sont d'accord avec lui.
Je pense qu'il ne faut pas... abuser des prénoms exotiques. Moi, je suis contre des prénoms trop Sofiane, des trucs comme ça qui signifient pas grand-chose.
Sofiane, c'est pas ce que ça veut dire. Michel, là, on sait ce que ça veut dire, Michel. Ça sent le garagiste, ça sent le joint de culasse, Michel. Voilà, on est en confiance. Jackie, voilà, un prénom, voilà, ça sent le barbecue, on fait une belote avec Jackie. Tu vois, on va passer une bonne soirée avec Sofiane, on sait pas trop. Donc, tous les soutiens de Zemmour sont d'accord avec ça.
C'est plus facile, si vous voulez dire. Il y a des gens qui s'appellent... Moi, j'ai une de mes nièces qui s'appelle Oseko. Ça me paraît un peu bizarre.
C'est comment votre prénom à vous ?
Gérard.
Et vous savez de quelle origine, Gérard ?
Oui. Gérard, c'est d'origine allemande.
Ah mince, c'est un prénom étranger, alors.
Non, alors, c'est un oui. Raccourci un peu rapide.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait, que c'était un raccourci à la con, mais comme c'est pas moi qui avais commencé, je me suis dit, je vais l'emprunter. Et en plus, Éric Zemmour, Éric, ça vient de l'allemand aussi. Donc je me disais que pour un nostalgique de Vichy, un prénom allemand, ça avait quand même de la gueule. C'est mieux que de s'appeler Ibrahim, quand même. Encore que, comme dirait cette dame...
Bon, je pense que Zemmour, en plus, n'est pas... Enfin, d'après moi, il est israélite, ce qui est très bien. Bah, écoutez, ça prouve qu'il est large d'esprit, parce que qu'un juif dise... qu'on doit avoir des dons chrétiens, bah, je trouve que ça prouve qu'il est très large d'esprit.
Hmm, j'avais pas vu ça comme ça.
Ben voilà.
Ah bah oui, c'est vrai que ouais, il va peut-être nous choper un prix Nobel de la paix, Zemmour. Il est à deux doigts de la médaille Martin Luther King. C'est vrai que quand t'es la muse des skinheads, c'est encore un petit peu la loose. Allez, pour apaiser les tensions, on conclut avec un Sénégalais d'origine qui aime Zemmour aussi.
Au fond, je suis sûr, c'est un mec bien.
Ah ouais ?
Mais j'en suis convaincu. Mais alors pourtant, c'est pas moi qui dois dire ça. Sénégalais et tout, normalement, je dois lui manger l'oreille. Mais non.
C'est lui, il faut le foutre dans un charter, quoi.
C'est pas grave. On ira, on reviendra.
Et voilà, parce qu'en fait, tout va bien se passer. Hein, parce que c'est pas une frontière qui arrêtera les gens sur cette planète. Quoi qu'en pensent les marchands de peur qui tentent de détourner la misère sociale en problème identitaire. Donc merci Laurent pour la découverte. Hein, puis surtout, merci de continuer sur votre lancée, parce qu'on attend le prochain livre de Charles Consigny avec grande patience.
Oh non, ne les comparez pas quand même. Ne les comparez pas.
Il n'y a pas une filiation ?
Non, eh bien, je peux répondre à ça.
Mais bien sûr,
on m'interroge tellement tout le temps là-dessus. Et encore, évidemment, avec cette histoire de prénom, qu'il avait d'ailleurs déjà, effectivement...
Oui.
Voilà, évidemment, déjà, pendant les 5 ans où...
Ah, c'est vieux tube.
Mais oui, c'est vieux tube, c'est vieux
comme... Insulte à la République, c'est un peu dommage.
Mais alors vraiment, quand on me dit, ben alors, c'est vous qui avez découvert... pardon, je sais bien que là, c'est sous le ton, sur le ton de l'humour,
non,
mais parfois, sur très sérieusement, on me dit, mais c'est vous qui avez été une rampe de lancement pour Éric Zemmour. Pardon, je rappelle dans ces cas-là, j'ai deux arguments. Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour en 2002 et Éric Zemmour n'était pas encore à l'antenne. Donc ça veut dire que quand même, dans ce pays, il y avait déjà des gens qui pensaient comme lui. Et donc, c'est pas moi qui ai changé l'état d'esprit des Français. Il y avait déjà Jean-Marie Le Pen en 2002, bien avant Éric Zemmour, au deuxième tour en France.
Mais ça a libéré la parole quand même. Ouais.
Ensuite, alors libérer la parole... Non, je pense que...
C'est même vous qui avez exprimé des regrets, d'ailleurs.
Oui, non, j'assume d'avoir, d'avoir pris Éric Zemmour pendant 5 ans, mais qu'on arrête avec ça. J'ai fait le choix, j'ai fait le choix d'abandonner Éric Zemmour avant la présidentielle 2012, parce que justement, je ne voulais pas avoir Éric Zemmour dans mon émission pendant la campagne présidentielle. D'ailleurs, la meilleure preuve que ça n'a pas eu plus d'influence que ça, c'est que, souvenez-vous, en 2012, le deuxième tour, c'était François Hollande contre Nicolas Sarkozy. J'ai pas eu Éric Zemmour pendant les, depuis, ça fait 8 ans que je travaille plus avec Éric Zemmour. Moi, on continue à me faire chier avec lui. Personne ne va interroger Éric Nolot. Mais personne ne reproche à Éric Nolot le fait de continuer à travailler avec Éric Zemmour depuis 8 ans. Alors j'ai envie de vous dire, adressez-vous à la porte d'à côté.
Voilà. Moi, je reprocherais volontiers à Éric Zemmour.
Est-ce qu'il
n'a
pas aussi...
Pardon ?
Je reprocherais volontiers à Éric Nolot.
Eh bien, allez lui dire.
Ouais, mais vraiment.
J'ai l'impression que ce n'est pas souvent le cas.
Est-ce qu'il n'a pas aussi complètement vrillé ? Parce que on regardait vos émissions à l'époque avec Zemmour, il n'était pas aussi...
Mais évidemment, c'est ça le problème. C'est que d'un seul coup, il a pété un câble. C'est évident.
Il est allé de plus en plus loin. Alors c'est toujours plus loin, plus haut. Donc on s'attend à avoir pire la prochaine fois.
Mais au fond, à l'époque quand on l'a pris, c'est parce qu'il représentait effectivement une partie de la société française. Mais on ne pensait pas que le monstre allait en sortir. D'ailleurs, dans la vie, ce monsieur que j'ai entendu, il est sûrement sympa. C'est vrai, en plus.
On jouerait volontiers à la belote.
Mais c'est souvent le cas, d'ailleurs. Il est plutôt sympathique dans la vie, Éric Zemmour.
Mais Goebbels, c'était adorable.
Mais c'est ça. Avant d'atteindre le point Godwin, c'est trop tard. On va aborder le deuxième sujet avec notre invité.
Mais bon, moi, je m'appelle Laurent. Alors, si vous voulez, j'ai pu le supporter pendant 5 ans.
Laurent Ruquier avec nous.
Mais ça faisait quand même, je le rappelle, ça fait quand même 8 ans. Alors lâchez-moi avec ça.
Mais non, mais là, vous nous relancez un petit nouveau, là, le petit consigné. Va être
non,
bien.
Non, ça n'a rien
à voir. Dans 10 ans, vous allez dire ah, mais on ne savait pas, etc. On va garder les bandes.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit prendre, et je sais qu'on le reproche parfois à France Inter, est-ce qu'on doit prendre dans ces émissions que des gens qui pensent comme vous ?
Pas forcément. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de juste milieu ?
Ben, le juste milieu, c'est Emmanuel Macron. C'est ça. C'est-à-dire ni droite, ni gauche. Mais non, il faut que toutes les opinions puissent s'exprimer. Puis après, chacun choisit.
Affaire à suivre.
Allez, abordons cet autre sujet, car nous ne sommes pas égaux devant l'accès à l'art et à la culture. Alors, les ministères de la culture et de l'éducation ont uni leurs efforts pour que les enfants puissent se familiariser avec le théâtre, la musique, les musées. Par exemple, tiens, cette idée de Jean-Michel Blanquer de réintroduire la chorale à l'école, ça fait partie de ce plan pour réduire le fossé culturel. Explication.
Toi, tu connais sûrement une chanson, non ?
Ben ouais, mais ça va pas vous plaire.
Bah, essaye toujours.
Ah, la claire branlette, j'ai sorti mon poireau. Les ginettes sans les fleurs de bobo. Il y a longtemps que je t'encule, ça va ? Je vous l'avais bien dit ?
Pas mal. C'est du travail, mais tu as déjà une bonne voix de baryton.
Une voix de quoi ?
De baryton, c'est pas une insulte. C'est quand on chante avec une voix grave. On met tout au fond avec les basses.
Gérard Jugnot dans Les Choristes de Christophe Baratier. Donc l'équivalent de 2 heures par semaine devront désormais être consacrées à des activités artistiques, chorale, lecture, éloquence, théâtre. L'idée est de réduire cette fracture culturelle qu'on connaît au collège et qui s'aggrave au lycée. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'accès à la culture, la démocratisation, etc. Ici, avec ce projet, l'école, est-ce que l'école, elle peut aider à régler ces inégalités
elle peut,
quand
elle
on n'est pas dans les grandes villes
On voit bien dans les parcours de la plupart des artistes, parce que vous, comme moi, j'imagine, quand vous recevez des artistes, vous voyez leur CV, leur bio. La plupart du temps, c'est un professeur qui a été le déclencheur ou le déclic d'une carrière. Et particulièrement au théâtre, d'ailleurs. C'est parce qu'on a fait du théâtre à l'école, parce qu'on a eu une prof de musique qui a été... Bon, ça, c'est plus rare, hein, parce que la flûte à bec, ça déclenche pas forcément des vocations. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est souvent à l'école que ça se passe. En tout cas, pour les catégories sociales qui sont, on va dire, les plus modestes. Parce que je lisais encore, il y a un invité qui vient samedi prochain, qui raconte que il voulait faire du piano et sa maman a tenté de l'inscrire au piano et c'était trop cher et il n'a pas fait de piano. Et si on développait ses possibilités...
Vous recevez André Manoukian.
Comment vous savez?
Nul en piano, ça m'a donné un indice.
Mais jeune, là. Ouais. C'est un jeune que je reçois.
Ah, okay. On lui dira.
Et vous, Laurent Ruquier, vos premiers contacts
Le théâtre, un prof de théâtre. Ah, oui. Un prof de théâtre qui m'a fait faire du théâtre à l'école. Et oui, et pourtant, je n'étais vraiment pas comédien, mais quand même, ça m'a sorti, ça m'a permis de... J'étais très inhibé, très timide. Mm-hmm. Voilà, ça m'a transformé.
Vous dites les classes sociales, mais ce n'est pas entièrement vrai, parce que des gens très aisés, où la culture n'est pas très présente dans la famille, et l'école où le prof de français peut donner goût à ça, et inversement, des milieux plus défavorisés, où ça parle beaucoup culture.
Ça dépend quel milieu défavorisé, mais quand même, il faut avoir les moyens pour offrir...
Aller au théâtre,
pour,
oui.
Pas pour aller au théâtre, même pour offrir des cours. Oui, mais même pour aller au théâtre. Moi, je viens d'un milieu ouvrier, où je veux dire, quand on allait au cinéma, c'était un événement dans l'année. Je peux vous dire, pendant des années, j'allais au cinéma le 31 décembre. Voilà, parce que c'était la sortie du nouvel an. J'ai vu tous les Disney, les Charlot à l'époque. Non mais c'est vrai, parce que mes parents m'emmenaient voir des films populaires. Le 31 décembre, c'est la seule fois dans l'année où je pouvais aller au cinéma. Je suis jamais allé au théâtre avant d'avoir 18 ou 20 ans. Jamais. Je me souviens très bien, par exemple, dans le journal Paris-Normandie, qui était le journal de ma région. Un jour, j'avais vu une annonce pour Barbara qui passait. Il y avait un cinéma qui s'appelait le Gaumont Olympia au Havre. Et Barbara passait, puis j'avais envie d'aller voir. Je sais pas pourquoi ça m'intriguait, cette femme, habillée en noir. Et mes parents, c'est pas pour nous. La phrase, c'est pas pour nous. Mais ça existe encore aujourd'hui.
Et aujourd'hui, on rattrape tant qu'on peut tout ce fossé.
Et c'est à l'école, effectivement. Ouais. Je pense que, au moins, effectivement, favoriser les activités extrascolaires, c'est ce qu'il y a de mieux.
Et ben voilà, un bon point pour le gouvernement. On a trouvé.
Allez.
Vous voulez que je sois ministre de l'éducation à la place de Monsieur Blanquer?
Ou de la culture.
Ah, ça y est.
Ou les deux.
C'est la place à Jean-Marc Dumonté, quand même.
Arrêtez de lui savonner la planche.
Parce que... François de Rugy est à l'écologie, on peut tout faire, c'est bon. Laurent Ruquier est avec nous et avec nous aussi. Constance. Constoudette. Allez-y.
Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 18 septembre et c'est la journée mondiale du contrôle de l'eau. Le contrôle de l'eau? Mais pourquoi faut-il contrôler l'eau? Elle roule trop vite et ne met pas sa ceinture? Non. L'eau n'est pas un danger au volant. Elle est même recommandée par la sécurité routière. Mais l'eau doit être nettoyée et contrôlée sans relâche, car l'homme est une sorte de grosse gourde composée à 70% d'eau et à 30% de glyphosate. Il doit donc s'hydrater toute la journée. L'eau donc, en plus d'être mouillée, doit être propre. Alors l'homme doit la nettoyer. Nettoyer l'eau? C'est absurde, vous allez me dire. Et pourquoi pas faire sécher du vent non plus? Arrêtons de plaisanter. Et prenons ce problème au sérieux. Sans le nettoyage de l'eau, nous aurions dans notre bouche, à chaque gorgée, un peu de sperme de notre voisin du dessus, un peu de merde de la dame qui habite en face, les petits morceaux d'embryon mal accrochés de la concierge ou encore des glaires de première règle abondante de l'adolescente de l'étage du dessous. En un mot, sans le nettoyage de l'eau, s'hydrater deviendrait un vrai repas complet et les fast-foods feraient faillite. La Terre n'a pas d'imagination. Heureusement que l'homme est là pour la réinventer. Car même si la Terre porte le nom de planète bleue, c'est bien l'homme qui a inventé le petit cube qui rend l'eau vraiment bleue dans les water. Et la grandeur de l'homme permet de faire ce grand tri sur la planète. Parce que si les poissons sont incapables de construire avec leurs nageoires des stations de nettoyage pour purifier leur eau, méritent-ils vraiment de vivre? À quoi la pieuvre sert avec tous ses bras si elle est trop bête pour réussir à bâtir une station d'épuration? À rien. Alors oui, le hurlement de l'eau prisonnière de la bouteille en plastique peut paraître déchirant, mais la mission de l'homme est bien plus grande que celle de la truite. L'homme, lui, a inventé le cachanus pour chien, quand même.
C'est-à-dire que...
C'est la chute.
On reste là-dessus.
Oui, c'est la chute. En fait, j'avais une autre chute, mais je la trouvais
elle est
moins
bien. Bien.
Mais sinon, je disais, et si tu es trop... Remets la musique.
On essaie l'autre chute.
Une autre chute. Oui. Vous dites si vous préférez.
Mais c'est enregistré, alors.
Ne le dites pas, ne le dites pas, Constance.
Coquine-nous de Laurent Ruquier.
Et si tu es trop sensible pour supporter le destin inévitable de l'eau, alors fais comme mon tonton alcoolique. Ne bois jamais d'eau. Tu mourras vite, mais tu seras rigolo. Voilà.
Les deux sont bien.
Vous choisissez.
Vous
vraiment.
Choisissez chez vous. Et vous recollez.
Moi, je vais garder le cachanus.
Vous votez chez vous.
Merci, Constance.
Merci à vous.
Alors, Laurent Ruquier avec nous. Et autour des grandes tablées, il faut parfois batailler pour suivre la conversation, comme aujourd'hui. Des conversations fragmentées au gré des groupes qui se forment. Eh bien, les scientifiques ont conclu que nous étions capables de converser de façon fluide quand il y avait 4 personnes maximum qui étaient réunies. Au-delà, il faut employer d'autres moyens.
Bonjour, je suis de profession discutateur. J'organise des stages de discussion inintéressantes de fin de repas ou de fin de banquet.
Mais oui, parce que vous êtes capable de vous emporter dans des situations tout à fait inconvenues.
Messieurs, s'il vous plaît. La conversation va porter désormais sur l'antigel et l'artériosclérose.
L'artériosclérose. Les petites annonces d'Élise et Moon. C'est un article paru sur Slate.fr qui s'intitule « Le problème des conversations à 4 et plus ». Et ça nous était jamais venu à l'idée de nous poser cette question, donc on se la pose. Vous qui vivez au centre de tablés, de chroniqueurs, d'invités, etc., depuis de nombreuses années, est-ce que c'est un art de cultiver la conversation à plusieurs ?
Ah oui, évidemment, il faut éviter que les gens se chevauchent, qu'ils puissent s'écouter. Ça, à la radio, évidemment, c'est essentiel, mais dans la vie, au fond, aussi. Mais moi, dans la vie, je le fais pas. Il faut qu'on me paye pour ça.
Vous passez la parole dans la vie aussi. Allez, Michel.
Au restaurant. Au restaurant, vous êtes pareil.
Je me tais. En fait, au restaurant, j'adore écouter. Puis je laisse.
Ah, c'est vrai.
Ah oui, hein, vraiment. Alors là, j'ai pas envie de d'être le meneur de la table et tout. Donc, j'ai qu'une envie, c'est d'écouter les autres et puis de me laisser porter.
Et dans l'écriture, alors, parce que l'article nous indique aussi, prends l'exemple de Shakespeare. Souvent, son intrigue repose parfois sur une vingtaine de personnages, mais qui apparaissent rarement tous ensemble. Quand vous écrivez une pièce, là, il y a 3 acteurs. Les 2 premiers actes, ils sont 2. Est-ce que parfois, dans les pièces que vous avez écrites, il y avait aussi cet enjeu-là de se dire « Ah, ils sont nombreux, là, j'y arrive plus. » Et si ils sont 2 ou 3.
Ça, c'est marrant comme question. C'est intéressant parce que c'est vrai, oui, les premières pièces que j'ai écrites, en tout cas particulièrement une des premières, pas tout à fait la première parce que la première c'était Landru, donc les personnages ils existaient et donc je les ai pas inventés. Mais la deuxième, La Presse est unanime, qui est la première qui s'est jouée.
Avec votre
vous
bande.
Suivez
avec votre bande de
La Presse est unanime, là il y avait vraiment beaucoup de personnages et c'est vrai qu'on est obligé de réfléchir un peu comme si on était à une table, de pas laisser quelqu'un sur le carreau pendant trop longtemps sur scène quand on écrit. On dit oh là là, mais ça fait longtemps qu'il a pas parlé celui-là, il faut lui donner une réplique. Oui, c'est vrai, il faut distribuer la parole dans une pièce. Ou alors vous mettez un comédien qui va... Ce qui est très dur d'ailleurs, un comédien qui parle pas sur scène, Alex Vizorek, le sait parce que je crois qu'il joue le bébé dans 3 années.
Et de temps en temps, je fais des petits bruits.
Je crois qu'il joue le couffin.
Non mais c'est vrai, il faut évidemment quand on écrit penser à distribuer la parole. Bon, évidemment, on sait qu'on va avoir un ou deux personnages phares et peut-être les comédiens, on va dire, qui sont tête d'affiche. Mais tout de même, j'espère... C'est ce qu'on appelle les pièces chorales, hein, au fond. Oui, et il y en a de plus en plus, comme les films, d'ailleurs.
Mais on dit que dans les théâtres privés, à plus de 4, c'est difficile à monter. Là, c'est
vous voulez dire financièrement ?
Financièrement, oui.
Bah, c'est le cachet de Francis Huster qui pose problème.
C'est pour ça que là, ils ne sont que 2. On a pris un garçon qui est payé au nombre de programmes vendus.
Ça, c'est bien.
C'est vrai. C'est
qui vend lui-même avant le
Louis Le Barazer. Et c'est Francis Huster et Fanny Cottençon, dans Pourvu qu'il soit heureux, au théâtre Antoine. Laurent Ruquier, est-ce que ça vous dirait de jouer avec nous ? Nous, on a adorerais.
Comme vous n'écoutez pas toujours l'émission, vu que vous êtes
sur une antenne. Moi, je suis en direct sur
RTL.
Alors,
il est 17h55.
D'ailleurs, je le prouve, il est 17h55. Vous écoutez RTL.
Laurence Bloch va perdre ses cheveux. On fait un sketch avec l'invité. On lui propose un rôle qu'il découvre. Vous avez le rôle de Laurent Ruquier.
C'est moi.
Ouais, vous avez le rôle de Laurent Ruquier, ça va. On s'est dit, qu'est-ce qui se passerait dans On n'est pas couché si, en fait, les chroniqueurs aimait tout de suite les produits culturels. Vous seriez bien dans la merde. Guillaume Meurice et Yann Moix.
Ça arrive quand même, je vous rassure, ça arrive.
Ouais, mais peut-être pas à ce point-là. Charline Van Hoenacker et Christine Angot.
Oui.
On se rend sur le plateau.
Je démarre. Hein.
Oui.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans On n'est pas couché.
Oh, génial.
Ah, il fait très... Pardon. Je suis tellement pas habitué à lire un texte dans l'émission que ça me... Ah, il est très chaud ce soir. Non. Bonjour Yann Moix. Les invités vont devoir se méfier.
Non, pas du tout. J'ai aimé tout le monde ce soir, que de belles propositions culturelles.
Ah bon ? C'est ouais. Surprenant. Mais dans ce cas-là, alors on est en droit de s'inquiéter, car Christine Angot, heureusement, est avec nous.
S'inquiéter ? Pourquoi vous dites ça ?
Parce qu'on vous connaît, Christine.
Ah non, moi je suis radieuse. Je viens d'écrire 10 pages de mon prochain roman.
Ah ben voilà une bonne nouvelle.
Mais cette fois, les gens du masque et la plume vont adorer.
Bon, allons-y. Notre premier invité dans le fauteuil sera Kenji Girac.
Ah, Kenji, génial, je kiffe grave.
Pardon ?
Je suis un fou de toutes les chansons de Kenji.
Ah, moi aussi. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse.
Mais c'est bien écrit, hein. C'est ouais. Rare, d'ailleurs, les rimes en ouze. Hein.
Oui, rimes partouze. Ouais.
Non, Laurent.
Pardon, mais aujourd'hui, on ne reçoit pas Kenji, le chanteur, mais Kenji, le peintre. Et là, je vous attends sur ce sujet. Kenji Girac, peintre.
Bah, écoutez, c'est fantastique. J'ai pas d'autres mots, c'est fantastique.
C'est un peu exagéré, quand même.
Bah, moi, je suis surpris, en tout cas, que vous aimiez. Quoi.
Moi aussi, je suis surpris. Christine ?
Pour moi, Kenji, je vous le dis, c'est Van Gogh en mieux. Voilà, c'est formidable. Mais
vous n'allez quand même pas aller à l'exposition, ce ne sont que des croûtes.
Non, Laurent, vous êtes très très dur. Moi, j'ai été totalement bouleversé par le trait de pinceau de Kenji.
Et d'ailleurs, moi, j'ai une question. Est-ce que, par rapport au fait, et c'est même pas dans l'entièreté, hein, je pose qu'ils font regarder vraiment en entier tout votre travail.
Quoi. La question, là ?
Oui, j'y viens. Dans une optique quantique...
Oh, mais arrêtez, c'est insupportable !
Calmez-vous, Catherine !
Mais j'en peux plus de cette émission, moi !
Ah, mais donc, elle est très nerveuse, Madame Barma.
Mais c'est insupportable, tout le monde sait ! J'en peux plus ! On peut pas faire de la bonne télé sans cloche !
Calmez-vous, Catherine, on va vous donner les petites pilules.
Oui, mais vous me virez le Picasso maniche, le manouche, là, pour l'invité suivant !
Très bien, et là, on a du lourd, car Gérard Collomb vient nous parler de son spectacle de ventriloquie.
C'est
formidable, génial.
Merci beaucoup Laurent Ruquier.
Pardon, j'ai un peu mal démarré l'affaire.
Non, mais après vous êtes bien repris.
Mais je me suis repris.
Vous avez le rôle de Laurent Ruquier.
Non, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai demandé, parce qu'on doit peut-être recevoir Kenji Girac.
Oui.
Je vais être rapide. Et j'ai demandé à ce qu'ils en pensaient à Charles Consigny et Christine Angot. Et c'est drôle que vous preniez cet exemple parce qu'ils adorent Kenji Girac.
Premier sur l'info. Merci Laurent Ruquier. Donc au théâtre Antoine, je rappelle, pourvu qu'il soit heureux avec la mise en scène de Steve Suissa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bah, c'est moi qui vous
C'était
remercie.
C'était un plaisir.